Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde. Dans tous ses états.
C'est pas véritablement une nouvelle brûlante. Notre système de santé déborde. Même à l'époque, il y a déjà une génération et demie de ça, Yvon Deschamps le disait à la blague. Dans, au département de l'accouchement, il y avait une mère avec ses deux jumeaux et je leur ai dit au médecin, j'ai dit à la mère, faites-vous-en pas, le médecin devrait arriver à temps pour y vacciner pour l'école. Mais justement, comment pourrait-on voir en dehors du cadre pour donner un peu d'oxygène, pour donner plus de services dans notre système de santé? Bien là, il y a des gens qui disent, nous, on serait capable de contribuer à ça de manière différente avec des soins souvent de première ligne ou de plus petite intervention. Et entre autres, c'est on pourrait appeler ça cette armée bien disposée sur le territoire québécois de pharmaciens et de pharmaciennes. Alors, pour en parler, Mme Diane Lamarre, pharmacienne elle-même et professeure à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Lamarre.
Bonjour, M. Lavoie. Ça va bien?
Très bien. Merci d'être avec nous. Alors, expliquez-nous comment il serait envisageable qu'on puisse mobiliser les pharmaciens et pharmaciennes un peu partout pour aider ou prêter main forte à la tâche?
Je dirais que c'est déjà amorcé. Il y a eu l'adoption de deux lois au cours des dernières années, la loi conduite 41 et la loi 31, qui permettent aux pharmaciens, entre autres, de prescrire certains médicaments, de modifier, d'ajuster certaines doses de médicaments et de traiter certaines conditions mineures. Et donc ça, c'est déjà en vigueur et c'est peut-être encore un peu méconnu. Je pense que ça serait peut-être l'occasion de faire une campagne d'information. Il y a certaines publicités qu'on avait à la télévision, mais...
Ben, commençons maintenant. Quels sont les fameux services que les pharmaciens et pharmaciennes ont maintenant le droit légalement d'offrir qu'ils n'avaient pas avant?
Ben, en fait, déjà la prolongation des ordonnances. Donc, ils peuvent prolonger. Vos ordonnances ne sont plus renouvelables. Le pharmacien peut prolonger, mais pour une période maximale d'un an. Si votre ordonnance de départ était d'un an ou de deux ans, lui peut prolonger pour un an. Si l'ordonnance était seulement de trois mois, il peut prolonger seulement pour la durée originale de l'ordonnance. Mais déjà, ça donne un peu de répit lorsque on ne réussit pas à avoir un rendez-vous avec son médecin.
Oui, puis on peut maintenant imaginer qu'il n'y a rien de plus choquant que de soi-même contribuer à engorger le système pour des actes qui peuvent être accomplis, franchement, par d'autres.
Exactement. Il reste que, parfois, le pharmacien peut aussi devoir refuser de prolonger. Si le diabète du patient n'est pas bien contrôlé, si le patient a des effets indésirables particuliers ou une dégradation de sa condition, il est possible que le pharmacien dise, bon, ben là, ça fait 10 fois que je vous renouvelle au lieu de 12, mais là, il faut vraiment que vous voyez le médecin. Et ça, il faut aussi que ce soit respecté parce que c'est une question de protection des patients. Mais oui, ça aide énormément. Là. Ça donne un peu d'air dans le système, je vous dirais. Il y a aussi dans le cas où on sait, il y en a de plus en plus des pénuries de médicaments. Et là, le pharmacien peut maintenant modifier le médicament, avertir le médecin par la suite, mais avant, il devait absolument rejoindre le médecin avant. Ça, déjà, ça compliquait beaucoup les choses. Il y a d'autres situations où le pharmacien peut vraiment prescrire des par exemple, l'infection urinaire chez une femme qui en aurait déjà eu une dans les dernières années, si c'est dans les 5 dernières années, donc parce que c'est vraiment une cause de consultation fréquente. Et quand on n'a pas accès à un médecin ou à un rendez-vous ou en clinique en sans rendez-vous, c'est tellement incommodant pour les femmes qu'elles se rendent à l'urgence de l'hôpital. Donc, c'est une façon d'éviter le recours à l'urgence. Si on en a déjà fait une, on peut aller voir le pharmacien et il va réactiver l'ordonnance. Il va pouvoir prescrire le traitement pour l'infection urinaire chez les femmes. Même chose pour les hémorroïdes, pour un feu sauvage, pour une vaginite, pour certaines irritations, des dermatites
donc,
sur la peau.
Des choses
alors,
de base. Madame Lamarre,
oui.
Une question, et là-dessus, je vous la pose, mais animée d'une curiosité sincère. Ça fait depuis probablement la création du système de santé tel qu'on connaît lui-même, qu'on cherche toujours une nouvelle première ligne. Il y a eu la pulsion, à un moment donné, c'était les CLSC, qui n'étaient pas mauvais en soi comme approche. Après ça, on essayait, et la raison est toujours désengorger les urgences. C'est pas nouveau, ça. En quoi cette approche-là, elle est nouvelle? Et est-ce qu'on a trouvé ici là une solution qui dormait dans nos cartons depuis très longtemps, ou on peut imaginer que ça va en prendre d'autres après, là?
Oui, ben je vous dirais que la notion de désengorger les urgences, c'est comme ça qu'on l'aperçoit actuellement. Mais un système de santé qui serait en bonne santé ferait en sorte que les gens consulteraient le meilleur professionnel au bon moment pour la meilleure chose. Et c'est pas vrai que d'aller à l'urgence d'un hôpital est le bon endroit pour se rendre. Dans beaucoup de cas, on le voit, là, ce qu'on appelle les P4, P5, des gens qui d'ailleurs sont pris à attendre 18, 20 heures à l'urgence, parce que ce ne sont pas des cas d'urgence hospitalière. Mais il n'y a pas d'autre porte s'ouvre pour eux dans la communauté, dans la société. Alors, il faut effectivement se pencher, et je pense qu'on est en train là, de décloisonner. Moi, quand j'étais présidente de l'Ordre des pharmaciens, j'ai fait beaucoup de démarches pour décloisonner les professions. L'Office des professions, ça a été constitué là, il y a 40 ans, puis je pense qu'on a au Québec d'excellentes formations des professionnels de la santé, que ce soit les physiothérapeutes, les psychologues, les infirmières, les pharmaciens, les médecins. Et donc, il faut que chacun fasse le mieux possible, le plus possible dans ses compétences en aidant les gens. Problème de santé mentale, je pense que les psychologues avec 7 ans d'université peuvent définitivement s'occuper beaucoup plus, entre autres dans les milieux scolaires, des enfants qui ont les troubles de déficit de l'attention ou d'autres troubles. Ils peuvent poser le diagnostic, les accompagner. Même chose pour les infirmières qui travaillent en milieu scolaire. Alors,
permettez-moi une question, et encore là, elle est animée d'une curiosité sincère. Une des choses que l'on souhaitait obtenir avec le concept de médecin de famille, c'est parce que la santé, c'est holistique, ça prend un suivi. Tu peux avoir mal quelque part, mais c'est dû à autre chose. On avait l'impression que, en tout cas la logique, c'est que si je suis suivi par la même personne pour l'ensemble de mes enjeux de santé au général, on aura une meilleure compréhension des causes qui sont à la source de mon état de santé. Est-ce que là, on va s'éparpiller à travers d'autres, une kyrielle de professionnels différents, puis personne, quelque part, aura une idée générale de mon état de santé? Est-ce que c'est un risque, ça?
Ben, en fait, il y a des éléments où effectivement, la continuité avec un médecin de famille est essentielle. Il n'y a aucun autre professionnel qui va pouvoir remplacer ça. Mais il y a plusieurs conditions. Quand je vous parle d'infection urinaire, par exemple, chez la femme, si on en fait une par 3 ans, c'est pas nécessaire de vraiment voir le médecin pour ça. Mais si on en fait 3 dans un an, là, c'est prévu que le pharmacien doit référer la femme à un médecin pour qu'il y ait une évaluation plus approfondie. Alors, c'est un peu cette différence entre un événement qui se passe et qui est circonscrit dans le temps, un feu sauvage, par exemple. Les gens reconnaissent ça quand ils en ont fait un il y a 2 ans. Et dans un contexte où on manque de toute évidence de disponibilité au niveau des médecins de famille pour toutes sortes de raisons, il y a eu beaucoup de retraites. On a mal, d'après moi, anticipé le besoin d'augmenter les cohortes en médecine. Et donc là, on est vraiment dans une situation qui est particulière. Là. Je pense qu'on est... il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui vivent ça, mais au Québec, là, on est vraiment en situation de crise. 1 million de personnes qui attendent sur un guichet d'accès.
Ouais.
Quand j'étais députée, on était à 400-500 000, et là, d'être à 1 million, c'est dramatique.
On n'a pas l'impression qu'on s'améliore, mais dites-moi, souvent, le cœur de notre système de santé, et c'est un peu un pacte avec le diable, là, c'est cette espèce de compromis de un côté rémunération à l'acte, et de l'autre, qui est l'extension des autres professionnels, c'est les champs de pratique réservés. Et en gros, ce que vous nous décrivez, c'est que maintenant, il y a des éléments de pratique qui appartenaient ou qui étaient de manière sacro-sainte réservés
exclusive,
à des médecins,
exclusive, ouais.
Qui maintenant peuvent être pratiqués par d'autres. J'imagine que du côté des médecins, que ce soit les fédérations professionnelles ou même l'ordre, on ne devait pas célébrer la chose. Est-ce que vous avez finalement gagner un ordre contre l'autre? Et est-ce que vous, après ça, vous êtes à risque de voir certaines de vos pratiques à vous transférées à d'autres pour vous soulager? Là, vous allez faire du travail de plus demain matin, vous n'êtes pas plus nombreux, là.
Mais en fait, il y a des gains d'efficacité. Il y a des gains d'efficience pour le patient et pour les professionnels à être capables de coordonner ou gérer complètement un épisode de soins. Et je veux juste terminer sur l'autre question. Il reste qu'on a quand même maintenant, ce qu'on n'avait pas il y a 30 ou 40 ans, des instruments de partage d'informations. Le dossier Santé Québec, par exemple. Maintenant, les pharmaciens ont accès aux données de laboratoire. Alors, si vous avez un médicament pour votre glande thyroïde, vous avez eu un dosage, le pharmacien peut même represcrire un dosage, il va avoir accès à ces informations-là. Alors qu'avant, on travaillait tous à l'aveugle un peu. On n'avait pas ce partage d'informations-là. Et donc, pour ce qui est de la résistance entre les professionnels, moi, je peux dire que j'en ai eu énormément il y a une dizaine d'années là, quand j'ai fait cette démarche pour élargir le rôle des pharmaciens, alors que dans toutes les autres provinces canadiennes, on avait déjà commencé à faire ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a rattrapé le temps perdu et actuellement, les pharmaciens du Québec ont vraiment tout un éventail d'actes professionnels, de nouvelles activités. Et l'an dernier, en 2021, si on ajoute la vaccination, et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup aussi d'implications, mais la vaccination était aussi un acte que le pharmacien ne pouvait pas poser avant, eh bien, on est à 4 millions de nouvelles activités qui ont été faites. Dites-moi. Et dans ça, il n'y a pas juste la vaccination. Il y a des ajustements de doses, des modifications de traitements.
On comprend bien que vous en faites plus qu'avant. Dites-moi, là, et...
Mais on est ouvert à ce que tout le monde en fasse plus.
Et là, je comprends que vous allez en faire plus. Vous allez en faire plus. Est-ce qu'il y a, qu'on pourrait prendre en note, là, des choses de plus que les pharmaciens présentement n'ont pas le droit de faire et pourraient faire ou qu'ils font ailleurs dans d'autres juridictions? Avez-vous des exemples?
Il y en a peu. Il y en a vraiment, vraiment peu maintenant parce que on a eu deux lois, le projet de loi 41 et le projet de loi 31. On a vraiment élargi beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui resterait, c'est certaines façons de prescrire. Mais vous voyez, on a ajouté récemment la possibilité pour le pharmacien de prescrire quand quelqu'un a le zona. Parce que c'est un problème qui doit être traité dans les 72 heures pour que le traitement soit efficace. Donc, le pharmacien a été formé maintenant pour reconnaître les lésions de zona et pouvoir initier le traitement. Même chose pour l'influenza. Il y a des adultes dans une résidence, il y a vraiment une poussée d'influenza, de grippe. Le pharmacien peut prescrire les médicaments qui sont nécessaires. On a probablement été les premiers au monde, M. Lavoie, à pouvoir prescrire le Paxlovid. Premier pharmacien au monde. D'accord. Et actuellement, aux États-Unis, on prend modèle et on se renseigne sur comment on a fait pour que les pharmaciens soient formés, préparés à bien faire la
Mais parlons de cet aspect-là, parce qu'il y a il y a un enjeu logistique, là. Imaginons une pharmacie ordinaire. En la blague, c'est qu'on y trouve aussi des médicaments. Le modèle d'affaires est un peu comme ça. Est-ce que ça va amener est-ce que vos membres, là, qui sont aussi souvent des entrepreneurs, est-ce qu'ils vont devoir repenser l'aménagement de leur pharmacie? Ça prendra certainement plus de place, un lieu pour des consultations, des salles d'attente, un lieu pour pouvoir donner des services. Est-ce que ça va vous obliger à repenser l'aménagement? Est-ce qu'il va y avoir, dans le fond, un aménagement de pharmacie 2.0? Parce que là, vous allez faire plus que ce que vous faites maintenant.
Oui. Mais c'est déjà le cas, mais c'est la voie depuis déjà plusieurs années, là, une dizaine d'années au moins. Toutes les pharmacies doivent avoir un bureau de consultation. Et je dirais que les citoyens en général font bien la distinction entre la partie boutique et la partie officine où ils vont consulter leurs pharmaciens. Pharmaciens qui peuvent consulter sans rendez-vous, c'est quand même quelque chose. On incite les gens quand ils prévoient que ça va être une longue consultation qu'ils veulent avoir avec le pharmacien à demander un rendez-vous. Mais le pharmacien est très, très disponible et il a vraiment augmenté ses compétences aussi. Donc, oui, il y a des pharmaciens que j'entends qui ont deux bureaux de consultation maintenant.
Le challenge s'en vient, c'est ce qu'on comprend. Alors, ça va être intéressant.
Il y a déjà eu une bonne adaptation. mais il reste que la pénurie de main-d'œuvre reste un peu plus problématique. Mais les pharmaciens ont vraiment été au rendez-vous jusqu'à maintenant.
Ben, ça va être à suivre, Madame Lamarre.
Les gens vont découvrir.
Parfait.
Vont
je veux vous remercier beaucoup d'avoir pris le temps. Diane Lamarre, pharmacienne et professeure à la faculté de pharmacie de l'UdM. Merci beaucoup. Mon plaisir.
Merci, au revoir.